Vous écoutez France Culture, il est 9h.
Le journal Valentine Letess.
Bonjour à tous. Le jour de son anniversaire était d'habitude marqué d'éloges, mais pour ses 65 ans, Vladimir Poutine a été défié par des milliers de manifestants 5 mois avant l'élection présidentielle. L'enjeu est grand pour l'opposition, nous racontera Jean-Didier Revoin à Moscou. L'Espagne ne sera pas divisée, tonne le Premier ministre Mariano Rajoy. Les anti-indépendantistes descendent à leur tour dans la rue aujourd'hui. Nous plongerons aussi dans le reportage sur la bataille de Mossoul d'Olivier Sarbil, récompensé par le prix Bayeux, dans les Landes où les producteurs de volailles meurent après le dernier épisode de la grippe aviaire. Appuyé d'élus, il demande une aide financière d'au moins 30 millions d'euros à l'État. Et David Ravier nous expliquera la fracture qui se dessine derrière le conflit médiatique entre Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls. Des milliers de Russes ont répondu à l'appel d'Alexeï Navalny hier. Le 65e anniversaire de Vladimir Poutine a été célébré dans les rues sous les cris de protestation contre le pouvoir. 80 villes ont participé à cette action, de la Baltique au Pacifique, mais c'est à Saint-Pétersbourg, ville natale du président, que la mobilisation a été la plus forte. Jean-Didier Revoin.
Dans l'ancienne capitale impériale, près de 3000 personnes ont bravé l'interdiction de manifester pour exiger la libération d'Alexeï Navalny et la démission de Vladimir Poutine, alors qu'elle n'était qu'à peine plus de 1000 à Moscou, à réclamer davantage de concurrence politique 5 mois avant l'élection présidentielle. Selon l'ONG OVD Info, 262 personnes ont été arrêtées dans 27 villes, dont 66 à Saint-Pétersbourg. Dans la Venise du Nord, qui a vu naître Vladimir Poutine et qui lui a permis d'entamer sa carrière politique, les interpellations ont été particulièrement brutales. On peut donc parler d'un succès d'estime, car la mobilisation comme les dispositifs policiers mis en place ont été nettement inférieurs aux manifestations du printemps dernier. Mais le pouvoir redoute ce mouvement de contestation, en témoignent les nombreuses perquisitions opérées dans les QG de campagne d'Alexeï Navalny à travers le pays au cours des derniers mois et la condamnation de l'opposant lundi dernier à 20 jours de prison pour avoir appelé la population à participer à des rassemblements interdits. Ces dernières semaines, le chantre de la lutte anticorruption a multiplié les meetings de campagne à travers le pays, parvenant à élargir sa base électorale, notamment auprès des jeunes, empêchés de se présenter à l'élection présidentielle de mars prochain en raison d'une condamnation pour détournement de fonds. Alexeï Navalny table sur la mobilisation de ses partisans pour dénoncer dès à présent une élection biaisée. Sa participation au scrutin s'apparentant alors à un gage d'élection régulière.
Jean-Didier Revoin à Moscou. On ne peut rien construire si la menace contre l'unité nationale ne disparaît pas. Déclaration de Mariano Rajoy au quotidien El País. Le premier ministre espagnol a exigé hier soir des indépendantistes catalans qu'ils retirent leur menace de déclaration d'indépendance unilatérale. Dans cette interview, Rajoy envisage même de suspendre l'autonomie dont jouit la Catalogne. Un Premier ministre resté sourd à l'appel au dialogue des Espagnols, Marie-Hélène Ballestero.
Ils étaient des milliers hier à défiler dans les rues de Madrid. À quelques centaines de mètres de distance, deux rassemblements et deux consignes totalement différentes. D'un côté, la défense de l'unité de l'Espagne et le respect de l'état de droit. De l'autre, un appel au dialogue. Deux messages qui symbolisent les deux principales voies pour répondre aux défis indépendantistes catalans. Et d'après une interview accordée hier par le chef du gouvernement espagnol Rajoy au quotidien El País, le respect de la loi reste toujours sa priorité. L'Espagne ne va pas être divisée et l'unité nationale va perdurer. Pour cela, nous utiliserons tous les instruments législatifs dont nous disposons, a précisé Rajoy. D'après lui, il n'y aura pas d'indépendance de la Catalogne et il fera tout pour l'empêcher. Rajoy espère ne pas avoir à adopter des mesures drastiques, mais pour cela, l'exécutif catalan va devoir rectifier sa conduite et respecter enfin la loi.
Une nouvelle manifestation est organisée ce midi à Barcelone par les anti-indépendantistes pour retrouver la sagesse. Ernesto Che Guevara, honoré par Cuba aujourd'hui à Santa Clara, 50 ans après sa mort dans le maquis bolivien, des célébrations qui marquent un changement d'époque dans le pays puisque ces commémorations se feront sans Fidel Castro pour la première fois et au moment où les dernières guérillas de gauche rendent les armes en Colombie. Il récompense les correspondants de guerre, le prix Bayeux Calvados décerné hier un reportage photo du journaliste irakien Ali Arkadi pour l'agence 7 dénonçant le recours à la torture par une milice irakienne. En télé, la journaliste citoyenne syrienne Ouad al-Khatib est récompensé en format court pour le dernier hôpital d'Alep, détenu par des rebelles. En format long, Olivier Sarbil obtient un prix pour Dans la bataille de Mossoul, diffusé sur Channel 4 News. Il a suivi au plus près une brigade des forces spéciales d'Irak, un film sur les tensions générées par la guerre et la reprise de Mossoul. Le spectateur plonge au cœur du conflit sans la protection d'une voix off. Un projet pensé bien avant le début de l'offensive de Mossoul, raconte Olivier Sarbil, en fait à la fin de la bataille de Fallujah en Irak.
J'ai rencontré à Fallujah ce jeune lieutenant des forces spéciales de l'armée irakienne. Ce jeune lieutenant parlait un peu anglais. Je souhaitais suivre les membres de son groupe pendant la bataille de Mossoul. Sur les 9 mois de bataille, j'ai couvert environ 6 mois avec quelques allers-retours. En général, je restais entre 4-6 semaines avec les hommes de tête des forces spéciales. Le jeune lieutenant n'était pas vraiment disponible. C'était un chef de groupe. Donc il m'accordait un peu de temps, mais en fait, je ne voulais pas avoir de fixeur, je ne voulais pas avoir de traducteur. C'est vrai, je ne parle pas la langue, je ne parle pas arabe, mais si j'avais eu une personne entre moi et ces hommes, j'aurais peut-être perdu cette connexion. Et je voulais vraiment créer un lien entre moi et ces hommes. On en a appris à se connaître, à s'observer. Je suis devenu assez rapidement invisible et ils ont oublié la caméra.
Olivier Sarbil au micro d'Éric Valmire. 30 à 34 millions d'euros. Voilà ce qu'il manque aux professionnels avicoles des Landes pour sauver leur exploitation après la grippe aviaire. Ils étaient près de 600 hier rassemblés sur la place du village de Castelnau-Chalosse, la zone la plus touchée par le dernier épisode, pour demander à l'État d'indemniser l'intégralité des pertes des éleveurs, des agriculteurs et une centaine d'élus, de droite comme de gauche, un tacle contre le gouvernement et surtout sur la manière dont ils gèrent cette crise. Frédéric Denis.
Sous les platanes de la place du village, béré sur la tête, Jean-Marie, éleveur et gaveur de canards à Donzac, brandit une pancarte qui donne le ton.
Les paysans avant les riches, ou alors c'est le bordel. Ça veut dire que avant de faire cadeau aux riches 4 milliards d'euros, de leur faire cadeau de l'ISF, ils peuvent bien sortir 30 millions pour aider une profession, pour aider des milliers d'emplois ici dans le sud-ouest.
Au moins 6 000 emplois sont en jeu dans les Landes. 4 par exemple chez Pascal Dulot, à 36 ans, il élève et gave normalement 20 000 canards par an à Casalis. Les comptes de l'exploitation familiale sont dans le rouge. Il s'interroge aujourd'hui sur l'écart entre les discours et les actes du chef de l'État.
Il demande aujourd'hui à remotiver les entreprises, à remettre finalement beaucoup de gens au travail. Quand il y a de l'argent à mettre dans une filière qui veut travailler, il ne veut pas l'y mettre. Je ne comprends pas. Ça ne représente pas de grosses sommes, mais en même temps, voilà, ça nous aiderait énormément.
Il manque aujourd'hui 30 à 34 millions d'euros pour aider la filière avicole des Landes à se relever après 2 crises successives de grippe aviaire. Le gouvernement peut trouver cet argent, estime le député socialiste de la Chalosse, Boris Vallot.
Peut-être que le gouvernement pourrait reporter de 2 jours la suppression de l'ISF. Il trouverait l'argent pour indemniser les agriculteurs. C'est sûr.
Les éleveurs de canards et de poulets des Landes se disent prêts à aller manifester devant le ministère de l'Agriculture à Paris s'ils ne sont pas rapidement entendus.
Un reportage de Frédéric Denis dans les Landes. Et d'autres secteurs de l'agriculture française sont en souffrance. La production viticole de notre pays a baissé de 19% en 2017 par rapport à l'an dernier. Un net recul dû aux mauvaises conditions climatiques et notamment au gel du printemps. Un ton ignoble et outrancier, juge le premier, un personnage extrêmement clivant qui suscite de forts rejets, crie l'autre. Emmanuel Valls et Jean-Luc Mélenchon à couteau tiré et par médias interposés cette semaine. Dernier épisode d'une lettre publiée sur le site internet du président de la France Insoumise où il explique sa démission de la mission parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie présidée par l'ancien Premier ministre. Des mots symptomatiques d'une fracture politique plus nette, David Ravier.
Dans sa lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon explique qu'il ne participera pas au groupe parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie à cause de la proximité qu'aurait Emmanuel Valls avec les thèses ethnicistes de l'extrême droite. Quelques jours auparavant, l'ancien Premier ministre avait qualifié le discours des insoumis d'ambigu avec l'islam radical, qualifiant par la suite le mouvement d'islamo-gauchiste. Si cet échange d'invectives montre une fracture entre les deux hommes, il permet aussi de mettre 2 choses sur la table. D'un côté, pour Manuel Valls, associer l'islamo-gauchisme à la France insoumise, c'est jeter le doute sur le groupe de Jean-Luc Mélenchon en faisant croire qu'il aurait une certaine complaisance vis-à-vis de l'islam radical. Cela lui permet également d'exister à nouveau sur le plan médiatique en tant que député après les précédents revers qu'il a subis cette année. De l'autre côté, pour Jean-Luc Mélenchon, sous-entendre que Manuel Valls entretiendrait une proximité idéologique avec l'extrême droite revient à discréditer l'ancien Premier ministre en sous-entendant qu'il aurait des accointances avec certaines idées racistes. C'est également un moyen pour le président de la France Insoumise de faire oublier les polémiques naissantes qui ont visé son parti cette semaine, entre les propos maladroits sur les chauffeurs de bus ou encore le soutien confus d'une suppléante sur le statut de martyr du tueur de Marseille. Enfin, cette passe d'armes a surtout permis de mettre en lumière les visions antagonistes de la laïcité des deux députés, montrant à ceux qui ne l'auraient pas compris qu'il y a bien deux gauches irréconciliables à l'Assemblée.
Les explications de David Ravier. Séminaire à Matignon aujourd'hui pour le gouvernement d'Édouard Philippe. Une réunion pour organiser le travail gouvernemental d'ici à la fin de l'année, précise le Premier ministre. La météo, un temps gris sur la France, sauf sur le sud, des Landes aux Alpes-Maritimes, de la pluie de l'Auvergne à l'Alsace, les températures 8 à 12 ce matin, 14 à 22 l'après-midi et jusqu'à 26 près de la Méditerranée.